évidemment, après, on pourra échanger. Alors, je me suis dit comment je vais faire, parce que, effectivement, je suis assez éloignée de la théologie. Je suis baptisée, je ne suis pas une grande pentecôte, je dois l'avouer. Et si je suis écologiste convaincue, si je suis protectrice de la nature convaincue, c'est-à-dire qui refuse le gaspillage, qui ne veut pas vivre dans un monde pollué, qui respecte l'environnement, de par mon mandat au conseil régional, parce que je suis élue au conseil régional, je dois avouer que je subis les dogmes de l'écologie politique dont j'essaye, où je dénonce régulièrement le sectarisme. Alors, où va le monde quand écologie et théologie se rencontrent? Alors, je vais tenter de répondre à ces questions en tenant compte de mes expériences, sans prosélytisme, ni religieux, ni écologique, ni politique, en essayant d'être le plus objectif possible, mais comme toujours en disant la vérité, et en sans langue de bois, et c'est un peu ce qui me caractérise au niveau politique local, c'est que je ne vais pas par quatre chemins et je dis toujours ce que je pense, même si ça déplaît à certains, après j'explique de toute façon et j'essaye de le faire dans la bonne humeur et dans le respect de tous. Alors je vous disais, je ne vais pas faire de politique politicienne, mais je vais quand même faire de la politique dans le sens premier du terme, c'est-à-dire en parlant de la cité et des citoyens, car la théologie comme l'écologie concerne bien l'homme et son environnement. Mon intervention se composera en trois parties. Théologie et écologie, de quoi parle-t-on? Quand écologie et théologie se rencontrent, ce sera ma deuxième partie. Et enfin, j'essaierai de répondre à la question « Où va le monde ?» Donc, théologie et écologie, de quoi parle-t-on? L'écologie a pour objet d'étudier nos modes de vie et les relations de tous les êtres vivants, animaux, végétaux, micro-organismes, avec leur environnement et avec tous les autres êtres vivants. Cette science s'intéresse généralement à un groupe d'espèces, à son étude, et s'appuie sur d'autres sciences, telles que la biologie, la climatologie, la géographie, la géologie, la chimie. L'écologiste scientifique, paradoxalement souvent méconnu du grand public, étudie et analyse notre évolution, l'évolution des continents, des espèces et le changement climatique. Lorsqu'elle est non dévoyée, cette écologie pose aussi concrètement, raisonnablement, les problèmes de la place et du rôle de l'homme sur Terre. Mais l'écologie ne doit pas être confondue avec l'écologisme, qui est un courant de pensée idéologique récent, un mouvement associatif et politique qui utilise les informations tirées des études scientifiques pour définir des doctrines, faire stopper ou réguler l'exploitation des ressources et souvent, malheureusement, condamner les hommes. Pour éviter la confusion, le terme « écologiste » est souvent rattaché aux militants politiques, tandis que le terme d'écologue est réservé aux scientifiques écologiques. Malheureusement, dans l'évolution du mouvement et la prise de conscience de l'écologie, les écologues sont vus très vite écartés des débats au profit des associations politiques, occultant de fait certaines vérités scientifiques, pourtant indispensables, dès lors que l'on veut prendre des décisions raisonnables et raisonnées. Ainsi, dès 1972, à Stockholm, les Nations Unies ont tenu uniquement en présence de politiques, sans aucun scientifique, la première conférence internationale sur l'environnement humain. C'est là qu'a été adopté le principe du droit fondamental de l'homme à l'environnement, point de départ de toutes les réglementations, législations, dispositions, chartes visant à protéger l'environnement et uniquement l'environnement. L'écologie aux mains des écologistes a aussi rapidement changé de mission principale, passant d'un objectif d'étude et de protection des animaux et de la nature à une mise en cause sévère de l'homme et de son comportement jugé néfaste pour la planète. Dès la première grande conférence sur l'environnement et le développement à Rio de Janeiro en 1992, les questions de la responsabilité de l'homme, de sa nuisance sur l'environnement, et je pèse mes mots, et de ses menaces sur la planète sont au centre de tous les débats. C'est d'ailleurs avec beaucoup de solennité que l'on nommera cette conférence le sommet de la Terre. En 1997, à Kyoto, on parle de diversité biologique, de gaz à effet de serre, de changement climatique. On constate que les objectifs de Rio de Janeiro n'ont pas été atteints. Et là, l'écologisme politique va durcir alors ces lois visant à limiter l'impact de l'homme. Dès lors, j'allais dire, le mouvement vert est en marche. Les écologistes politiques rédigent des chartes comme on rédigerait le commandement d'une nouvelle religion. Alors, très rapidement, je viens de vous présenter un petit peu l'évolution de l'écologie, l'écologie des écologues et de l'écologiste politique. Devant l'auditoire, j'allais dire, de spécialistes que vous formez, j'oserais seulement rappeler pour la théologie la définition du Larousse, étude concernant la divinité et plus généralement la religion. Dans ma deuxième partie, je vous parlerai donc des rapports entre l'écologie et la théologie, quand les deux se rencontrent et quand les deux malheureusement s'éloignent. La théologie et l'écologie nous interpellent de façon conjointe sur le sens de la vie, sur les lois de la nature, et peuvent porter des messages communs de respect, de protection, de transmission. Le plus important des commandements religieux, tu aimeras ton prochain comme toi-même, pourrait déterminer une philosophie commune. Cependant, les questions qui concernent la place sacrée de la terre et de l'homme peuvent être des points de discorde entre théologie et écologie. Si pour l'écologue, la nature et l'homme sont au centre de toutes les attentions et de toutes les études, de façon égale, cartésienne, sans préjugés, mais dans l'observation et l'expérience, avec l'envie de démêler le vrai du faux, il n'en est pas de même, on l'a vu, pour l'écologiste politique. Pour certains écologistes politiques radicaux, la Terre est vénérée, admirée, telle la déesse Gaïa, Terre mère nourricière, féconde de tout et mère de toutes les divinités. Pour bon nombre d'entre eux, c'est de Gaïa que vient toute vie et à laquelle toute vie retourne après la mort. À ses pieds, les humains, se contentant d'être de chair, d'os, de sang, peuvent souvent malheureusement être sacrifiés. Les écologistes politiques peuvent être assimilés pour certains aux panthéistes ou aux naturalistes qui ne reconnaissent d'autres principes et d'autres dieux que les lois, les forces et la divinité de la nature. La recherche du fameux jardin d'Éden, symbole fort des religions, du paradis sur terre, du monde naturel par certains écologistes un peu plus extrémistes, a fait évoluer l'image de la nature qui passe de l'œuvre de Dieu à une nature assez païenne mais sacralisée, aux valeurs innées, oubliant par ailleurs que le monde de la nature est très très souvent un monde cruel et impitoyable. Certains parlent à ce sujet d'une loi de la jungle que Darwin a théorisée en son temps en concluant que seules les espèces ayant la meilleure et la plus rapide faculté d'adaptation arrivent à dominer les autres et en même temps au sommet de la chaîne alimentaire. C'est par ce principe de sélection naturelle vieux de plusieurs milliers d'années que l'homme a réussi à dominer l'ensemble des espèces vivantes. C'est l'argument d'ailleurs repris par beaucoup d'écologistes politiques pour présenter d'entrée de jeu l'homme comme le pire des prédateurs, mais aussi comme le dévastateur de la nature. Je citerai qu'un ouvrage écrit par un collègue politique écologiste et philosophe dont le titre est « L'humanité disparaîtra, bon débarras ». A contrario, pour les croyants, dans bon nombre de religions, Dieu est unique et tout-puissant. Il est le créateur de l'univers et des hommes. Il est enseigné en théologie qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Puis dans la Genèse, chapitre 1, verset 26, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur terre. L'homme créé à l'image de Dieu est la fin de toute chose. Supérieur aux autres espèces, il est appelé à dominer les autres êtres vivants et la nature qui ont pour finalité de le servir. Mais si la terre et ses ressources sont les biens dont l'homme est le gérant, le gardien, le cultivateur, il n'en est pas le maître et le possesseur. Ce dernier se doit aussi de les protéger, de les respecter, car Dieu a donné la terre à l'homme pour qu'il y poursuive, il me semble, son acte de création. Le respect de la nature exprime ainsi aussi le respect de l'œuvre de Dieu. L'homme est invité à l'observer, à s'en émerveiller, à l'utiliser sans pour autant la dégrader, c'est-à-dire sans pour autant la détruire, afin d'ailleurs que lui-même puisse survivre et prospérer. De la survie de la terre dépendra la survie de l'homme. En d'autres termes, et nous sommes dès lors dans une approche écologique, scientifique et concrète, le destin de l'homme est lié à celui de son environnement tellurique, aquatique, climatique et bien entendu à son environnement vivant, c'est-à-dire animal, végétal, macro et micro-organisme. Alors oui, le destin de l'homme exige la rencontre entre la théologie et l'écologie. Cependant, malheureusement, quand il s'agit de l'homme, les dérives sont toujours à redouter. La théologie, comme l'écologie, porte sur des croyances et des messages forts. Les porteurs de ces messages au nom de la vérité ou de leur vérité se sentent souvent investis d'une mission divine et partent de par le monde prêcher la bonne parole. Il est étonnant de noter que théologie et écologie politiques particulièrement, utilisent d'ailleurs souvent les mêmes termes. On parle de commandements, d'enseignements, de lois, de principes, de règles, de paradis, de jardins, mais aussi de sentences, de péchés, de salut. On peut même entendre parler de catastrophes effrayantes, de fin du monde, d'apocalypse. Alors jusqu'où peut-on aller? Quelles sont les limites acceptables? Ces questions se posent à la fois sur un plan très pratique, les doctrines, les réglementations qui concernent toute la philosophie, l'écologie et de la théologie, mais aussi sur un plan, j'allais dire, de liberté individuelle. Quelle place laisse-t-on aux libertés de penser et d'agir? Jusqu'où peut aller l'endoctrinement, l'évangélisation, la conversion? Et où se situe la limite entre l'idéologie constructive et l'idéologie souvent extrémiste, régressive, qui au final ne respecte ni les hommes, ni leur environnement? Ben, je pense que notre équilibre en réalité est bien fragile. Le passé proche nous démontre que le risque de dérapage est omniprésent dès lors que l'on inverse l'ordre des choses, que la religion devient un parti politique et que l'écologie devient une religion. Nous l'avons vu, l'écologie politique a malheureusement très souvent opéré une sorte de hold-up sur le terme même, sur la discipline même de l'écologie, faisant oublier les écologies scientifiques et les avancées environnementales bénéfiques à tous, en partant souvent du principe que seuls les hors-la-loi peuvent sauver le monde. Le Front de libération des animaux a recours à des actions directes pour libérer les animaux, pour saboter les entreprises qui les exploitent. Il n'hésite pas, par exemple, en 2007, à utiliser des explosifs contre des entreprises de Rhône-Alpes, spécialisées dans la fabrication des cages, puis, plus tard, contre un groupe américain qui est l'un des premiers éleveurs d'animaux de laboratoire, mais situé aussi en Rhône-Alpes. Il Silvestre, par exemple, organisation italienne, s'est attaqué dans l'objectif de le détruire en 2010 à un site IBM, chez nous, devant abriter un des centres les plus avancés dans le domaine des recherches des nano et des biotechnologies. Quant au Front de libération pour la planète, créé en 1992 au Royaume-Uni, il prend régulièrement pour cible, toujours avec des explosifs, les établissements et les entreprises impliquées dans l'exploitation forestière, le génie génétique, la culture d'OGM, la vente de 4x4, et préconise, je les cite, « une destruction et une dégradation de l'humanité pour une fin de l'anthropocentrisme. Leur objectif, je cite toujours, détruire le monde afin de mieux le sauver. » S'inspirant peut-être dans leur démarche du livre de la Genèse, des chapitres 6 à 9, quand Dieu lui-même, voyant le monde empli de violence, de haine, de la perversité des hommes, a décidé de faire tomber un déluge sur la terre pour y détruire toute vie, à l'exception de Noé, le seul homme juste, de sa femme, de ses fils, d'un couple de chaque espèce terrestre et volatile, pour ensuite pouvoir repeupler toute la terre et recommencer. Ces groupes, cependant extrémistes, oublient que Dieu, satisfait du résultat, si je puis dire, se résolut à ne plus jamais maudire la terre à cause de l'homme et à ne plus jamais détruire toute vie de cette manière. Voici quelques exemples d'écoterrorisme. Mais on peut aussi citer les faucheurs volontaires, ou encore les violences qu'ont dû essuyer il y a peu nos forces de l'ordre, ou les dégradations publiques par les opposants de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Derrière la mouvance de l'écologie politique totalitaire, il y a aussi une théorie de la décroissance, comme le prouve la remarque assez récente de l'ancien député Véryve Cochet à Cécile Duflot, ministre écologie aussi, quand il lui reproche publiquement son empreinte carbone, car cette dame a 4 enfants. Mais ces problèmes de dérapage extrémiste, je suis navrée, concernent aussi la religion. Pour moi qui, je vous l'ai dit, suis pas très pratiquante et qui aime profondément mon prochain, d'ailleurs d'où mon engagement politique, pour moi qui essaye d'être juste, d'aider ceux qui en ont besoin, toujours dans le respect de leur dignité, la religion signifie l'amour des autres, l'entraide, la solidarité, le respect, ou des moments comme aujourd'hui. Et je suis révoltée, effectivement, lorsque certains pays mettent à leur tête de leur gouvernement des groupes religieux politiques et dogmatiques qui imposent les règles, des lois comme la charia, qui ne respectent ni les femmes, ni les jeunes filles, les privant des libertés élémentaires et de toute instruction. Je suis très très inquiète lorsque je vois qu'au nom de certains prétendus dogmes religieux et de certaines croyances, des hommes sont capables de perpétuer des attentats tels que le 11 septembre. Mais chaque religion, je suis navrée, a eu ses dérapages. Et l'histoire des religions est marquée par nombre de dérives schismatiques et sectaires. Je pourrais citer les croisades, l'inquisition, la Saint-Barthélemy ou encore les combats très très récents en Centrafrique. Et il faut qu'une petite allumette, je pense, pour remettre le feu aux poudres en Palestine, et cela depuis 1948. Ces exemples de guerres intra-religieuses ou entre différentes religions sont bien éloignés des commandements dont je citerai seulement deux recommandations. Tu ne tueras point, tu ne voleras point. Par ailleurs, pendant que l'on se bat, on est bien loin des préoccupations de la terre, de la nature, comme le démontre par exemple l'utilisation de l'agent Orange, un herbicide utilisé par les États-Unis lors de la guerre du Vietnam entre 1961 et 1975. Ce défoliant chimique composé de dioxines répandu par avions au-dessus des forêts vietnamiennes est non seulement responsable de nombreux cancers et malformations, et cela encore des années après la fin de la guerre, la fin des combats, mais a dévasté la nature et l'environnement, en faisant tomber les feuilles des arbres, en détruisant les cultures, les terres arables, et par conséquent en affamant les animaux et les hommes. Alors oui, je le répète, le destin de l'homme exige la rencontre de la théologie et de l'écologie. Il exige que l'on revienne aux fondamentaux de la vie, au respect, à la paix, au partage, à l'amour de son prochain. Car quelle que soit notre religion, ne sommes-nous pas tous égaux devant l'Éternel? Ne devions-nous pas respecter l'œuvre de Dieu et nous aimer comme Dieu nous a aimés? Nous avons, je l'espère au moins tous, un point commun, qui est l'amour de nos enfants. Nous avons alors pour devoir de leur laisser en héritage un monde propre, sain. Le problème, c'est que cela justifie aussi pour certains le sectarisme écologique. Je vais essayer de répondre maintenant à la question « Où va le monde ?» Où va le monde ? Nul ne le sait vraiment. Nous pouvons tout au plus faire quelques projections sur les tendances constatées aujourd'hui, sans oublier jamais que l'homme n'est rien d'à côté de la force des éléments, que la Terre n'est pas grand-chose dans le système solaire, et quasiment rien dans l'univers qui poursuit son expansion à la vitesse de la lumière. Un univers dont on ignore l'essentiel, de façon cartésienne et définitive, c'est-à-dire son origine comme sa fin. Qui, comment, pourquoi, Dieu, ou pour certains le néant, si j'ose dire. Pour bon nombre d'écologistes, sans l'impact négatif humain, tout irait bien. L'homme étant le grand responsable du changement climatique, de l'évolution, de la disparition de nombreuses espèces, rejoignant ainsi les théories pour certains malthusiennes qui prônent la restriction démographique afin de limiter les effets dévastateurs du développement incontrôlé de la population humaine. Pour les religieux, Dieu est le seul créateur. Et si la science, à travers les différentes théories de l'évolution, explique comment la matière peut évoluer, elle omet de mentionner l'esprit, et elle ne peut pas expliquer pourquoi notre monde a été créé. Francis Bacon disait qu'un peu de science éloigne de Dieu, mais que beaucoup y ramène. C'est sans doute pour cela que le boson de Higgs, chaînon manquant pour avancer dans la compréhension de la matière du Big Bang et dans les connaissances de l'origine de l'univers, qui a été découvert au CERN à côté de chez nous en 2013, est surnommé l'électron de Dieu. Quoi qu'il en soit, il est vrai que l'histoire de la vie est marquée depuis la nuit des temps par le renouvellement permanent des espèces, leur évolution ou leur disparition. Cette règle s'applique depuis des millénaires aux hommes et aux animaux. Alors, où va le monde ? Les projections sont plutôt préoccupantes. Mais on ne peut pas répondre à cette question et voir sa réalité qu'à travers l'écologie ou la théologie, sans prendre en compte les dimensions économiques, démographiques ou sociales. D'un point de vue économique, un pays est riche si la majorité de sa population accède à tous les besoins vitaux, ainsi qu'à un certain confort et à l'éducation. Un pays est riche si l'augmentation de son PIB, c'est-à-dire de la production sur son territoire, est supérieure à sa croissance démographique. Cela lui permet alors de créer de la richesse, de la croissance économique, et pour ce faire, on doit soutenir les entreprises, l'économie, les productions, l'offre, et pour ce faire encore, on doit consommer beaucoup d'énergie et de matières premières. Concernant les évolutions climatiques, la majorité des scientifiques écologistes, tout comme les experts du GIEC, donc c'est le groupement d'experts intergouvernemental pour l'évolution du climat, estime avec une probabilité supérieure à 95% que l'élévation rapide, beaucoup plus rapide que naturelle, de la température terrestre relevée depuis le milieu du XXe siècle est bel et bien le fait d'accumulation des gaz à effet de serre d'origine humaine. En conséquence de quoi ? L'homme n'a pas le choix. Il doit opérer dans des délais extrêmement courts des changements profonds dans ses habitudes et ses modes de vie sous peine d'épuisement de la planète. Il s'agit bien là d'une analyse écologique scientifique. Puisque l'écologie, je vous le rappelle, est la science qui étudie les relations des êtres vivants avec leur milieu. D'un point de vue de l'évolution démographique, nous sommes aujourd'hui un peu plus de 7 milliards. Mais les projections avancent le chiffre de 9,5 milliards en 2050 et une fourchette entre 10 et 11 milliards d'ici la fin du siècle. Avec un fort taux d'accroissement de la population, nous aurons aussi à faire face à une disparité des répartitions de la population sur la planète. En 2025, comme cela est déjà d'ailleurs amorcé, les pays européens s'orienteraient majoritairement vers une diminution de leur population, quand l'Asie, l'Inde, l'Afrique verront leur population croître avec un taux record. Dans 10 ans, l'Asie et l'Afrique devraient totaliser plus des 3/4 de la population mondiale. La question des ressources, eau, alimentation, énergie fossile, matières premières, est aussi incontournable. La planète se peuple de quelques 80 millions d'individus supplémentaires chaque année. La demande en énergie a augmenté d'un tiers entre 2010 et 2015, du seul fait de la croissance démographique, de la longévité, de l'amélioration de la qualité de vie. Notre nombre et notre économie globale augmentant plus rapidement que ce que peut absorber la planète, la question du rapport entre la charge humaine et les ressources terrestres devient essentielle. Mais cette question est indissociable du débat sur l'inégal accès aux ressources et sur la forte disparité de l'indicateur du développement humain. Aujourd'hui, près d'un quart des habitants de la planète vivent sous le seuil d'extrême pauvreté, moins $1 par jour. 800 millions de personnes souffrent de la faim dans le monde. La malnutrition provoque toujours la mort de 6 millions de personnes, dont 3,1 millions d'enfants de moins de 5 ans chaque année. Et un enfant sur 4 dans le monde souffre toujours de retard de croissance à cause de la malnutrition. La pénurie d'eau est une menace qui pèse sur 40% de la population mondiale. Un tiers de la population n'a pas accès à l'eau potable. Environ 2,5 milliards de personnes ne bénéficient toujours pas d'un accès à un équipement sanitaire dans le monde. L'eau est la 5e cause de mortalité dans le monde, bien avant les conflits armés. De plus, alors que l'on cherche aujourd'hui à réduire la consommation mondiale d'énergie des pays industriels pour limiter les gaz à effet de serre, 1,6 milliard d'habitants n'ont toujours pas accès à l'électricité. 2,6 milliards sont privés de combustible et de technologies de puissance moderne. Ces difficultés d'accès à l'énergie ont de lourdes conséquences sur le plan écologique, environnemental, à cause des feux de bois, de la déforestation, etc., et des lourdes conséquences sanitaires. Le manque de moyens de réfrigération, par exemple, freine gravement les campagnes de vaccination, puisque les vaccins ne peuvent être conservés qu'au frais. En Afrique, sans énergie, sans eau, sans soins médicaux, l'espérance de vie est inférieure de 20 ans à la nôtre. Les pays industrialisés du Nord représentent, donc États-Unis, Japon, Europe globalement, représentent 16% de la population mondiale, mais détiennent 80% des richesses du globe. Quand en Afrique subsaharienne et en Asie, les futures régions les plus habitées, je vous rappelle, on a vu, le taux de pauvreté frappe 40% minimum de la population. Ainsi, selon les projections démographiques, si la population mondiale augmente davantage dans les pays les plus démunis, nous pouvons redouter dans les 10 prochaines années l'augmentation des inégalités spatiales dues au développement, l'aggravation d'une fracture sociale et une migration importante des populations à l'échelle du globe. Aussi, l'enjeu aujourd'hui est bien d'être capable de doubler rapidement notre production d'énergie afin de répondre à la demande et aux besoins constamment accrus des populations, tout en divisant par 2 nos émissions de gaz à effet de serre, pour atteindre aussi les objectifs de la communauté internationale. La mise en œuvre des conclusions écologiques scientifiques semble donc incontournable si nous voulons lutter contre les pollutions, réduire les énergies fossiles, construire une transition énergétique en faisant baisser les gaz à effet de serre. Socrate affirmait que l'ignorance était la racine de tous les maux. Nous ne pouvons nous passer de continuer à chercher. Nous devons faire des études et dénoncer ce qui s'oppose ou détruit les expériences conçues pour étudier les hypothèses. Je voulais vous parler du nucléaire, c'est un peu long, mais je vais juste vous parler des OGM. Lorsqu'on détruit des expériences comme, par exemple, les plants d'OGM qui produisent la molécule d'hémoglobine humaine avec du tabac transgénique, hémoglobine dont on manque en Afrique, par exemple, particulièrement pour sauver des vies, on s'attaque à des champs donc, par des faucheurs volontaires anti-OGM. C'est à la recherche et c'est aussi aux hommes et à l'avenir des hommes qu'on s'attaque. sur tous les sujets, donc souvent, malheureusement, l'écologie politique totalitaire, à cause du principe de précaution, détruit toutes les recherches, bon, je voulais vous parler du nucléaire, mais c'est très très long, sur le génie mécanique, sur les OGM, sur les nouveaux matériaux, les nanotechnologies, sur les nouveaux vaccins aussi, lorsqu'on s'attaque à des choses comme ça au niveau, ou par dogmatique un petit peu écologique ou environnementaux, on met aussi en danger, on l'a vu, toute l'évolution de notre planète, parce qu'on sait qu'on aura besoin de trouver des solutions pour répondre à nos besoins. Ceux qui refusent donc les réalités, les progrès scientifiques, à la rigueur, comme les découvertes scientifiques de Copernic ou de Galilée étaient niées par les religieux, nous mettent dans une situation qui était appelée aussi au Moyen-Âge la preuve diabolique. Il faut qu'on invente, qu'on innove, afin de constamment progresser, tout en sachant que la vérité scientifique n'est vraie qu'à l'instant T. Et c'est bien grâce à la science, à la technologie, que nous vivons mieux, plus longtemps, et que nous serons capables de sauver la planète, tout en répondant aux besoins liés à notre évolution démographique. Alors que l'on soit naturaliste, écologue, scientifique, croyant, dès lors que l'on sait que de notre comportement dépendra l'avenir du monde, qui englobe l'ensemble de tout ce qui existe, y compris l'humanité, il est impératif et urgent, d'autant plus dans une période troublée comme la nôtre, d'engager des changements planétaires conséquents, au risque sinon, selon nos croyances, de subir de cruels châtiments ou de dévastatrices catastrophes. Ainsi, mesdames et messieurs, si je suis convaincue que l'avenir de l'homme est incertain, il nécessite bien la rencontre entre la théologie et l'écologie. Mais cette rencontre, malheureusement, on a encore à se chercher, car d'une part, la dynamique prédatrice de l'homme sur son environnement ne peut s'arrêter facilement. Et d'autre part, l'attitude dogmatique de personnalité ou de mouvement extrémiste ne permet pas d'engager sereinement les mutations indispensables à l'évolution positive de notre monde. Nous devons, je pense, dépasser les extrémistes, permettre un dialogue interculturel, interreligieux, de tolérance, de compréhension mutuelle, de réconciliation, dont la ville symbole d'ailleurs pourrait être Jérusalem, la ville des trois religions du livre. Nous devons travailler tous ensemble, et non pas à un énième sommet de la Terre, mais à la réalisation d'un sommet pour l'humanité et le développement durable humain. Voilà notre seul remède universel. Merci.
Un grand merci à Annabelle. J'avais pas réalisé quand je l'avais proposé d'intervenir que ça tombait à une époque aussi lourde pour elle. Et elle m'a dit, entre ses activités culturelles, artistiques, qui lui ont pris beaucoup de soirées la semaine dernière, je me dis quand je la vois dans cet état aujourd'hui, qu'est-ce que ça doit être quand elle dort normalement ?
Je pense qu'il doit me manquer au moins 15 heures de sommeil, mais ça va.
Alors, voici le moment des questions et des réponses, s'il y en a. Qui veut bien ouvrir le débat ?
Tout d'abord, merci. C'est absolument extraordinaire ce qu'on vient d'entendre. Le timing, la vitesse avec laquelle vous nous avez fait passer l'essentiel et un résumé économique et beaucoup plus politique et théologique est vraiment bravo.
Merci.
Et puis, au risque d'avoir mal compris ce que vous avez... J'ai entendu parler d'anthropologie, mais je n'ai pas bien compris ce que vous avez dit à ce sujet. Pourrais-je vous demander une explication ?
Alors, j'ai cité, en fait... On a certains mouvements, j'allais dire, écologiques, c'est vraiment... Alors, c'est très compliqué parce qu'effectivement, comme je disais au départ, je suis au conseil régional. Et au conseil régional, c'est quelque chose qui est très, très politique. C'est vraiment une institution très politique. Où malheureusement, on a des dérives de tous les côtés. Et où malheureusement, je pense qu'il y a beaucoup de vieux élus qui sont là, pardon, qui sont aussi élus... depuis très longtemps, peut-être à l'Assemblée nationale, et qui ont, à mon avis, une perte avec la réalité et le quotidien qui est très dangereuse, j'allais dire, pour nous, tout simplement, qui sommes des citoyens engagés, soit dans la religion, soit dans des associations, soit en politique, parce qu'on a envie de faire évoluer les choses. Et on a effectivement des débats régulièrement où on entend parler de la fin de l'homme. Je vous disais, l'humanité disparaîtra, bon débarras, c'est le type de débat qu'on peut avoir au sein du conseil régional par des mouvances écologiques. Je vous citais les panthéistes, les naturalistes, qui disent que tant que l'homme est sur Terre, il n'y aura pas d'avenir pour la planète. Mais c'est vraiment ça. Alors j'ai essayé de faire le parallèle en disant un peu les extrêmes, parce que je pense qu'il y a des dérives partout, que l'homme aussi, par son comportement, détruit la planète, ne la respecte pas du tout, et qu'il faut réellement une approche entre la religion, en tout cas l'amour des autres, et un rapprochement avec les écologistes scientifiques, ou les écologues scientifiques qui, eux, aiment la planète. Il faut vraiment qu'il y ait un vrai discours, parce que l'un sans l'autre, on n'arrivera pas à évoluer. Mais la fin de l'anthropologie, c'est ça, c'est vraiment... Il faut que l'homme disparaisse le plus rapidement possible, parce que l'homme est un dévastateur, un destructeur de la planète. Et c'est vraiment des discours qu'on entend très régulièrement et qui, moi, me choquent réellement. La personne dont je ne citerai pas le nom, d'ailleurs, qui a écrit ce livre-là, m'a un jour particulièrement choquée et mise en colère, parce qu'il a eu des propos, il a plusieurs enfants, en disant « pourvu que mes enfants meurent rapidement ». Comme ça, ils ne verront pas la déchéance de la planète et la déchéance de l'humanité, pourvu qu'il leur arrive des choses et qu'ils meurent rapidement. Comment, je me disais, j'espère qu'on se retrouvera tous avec l'amour de nos enfants. Comment on peut avoir de tels propos? Moi, ça me dépasse totalement, mais malheureusement, c'est des choses qui existent. Et si je vous disais, je suis une protectrice de la nature convaincue, je trouve que le hold-up opéré par l'écologie politique est dramatique, puisque du coup, on ne parle plus de recherches scientifiques et des dossiers qui sont réellement importants pour la planète. Il faudra qu'on trouve une solution. On est de plus en plus nombreux. Il y a des gens qui sont pauvres à l'autre bout du monde. Est-ce que nous, on doit continuer à donner des leçons à tout le monde, ou est-ce qu'on ne doit pas se poser la question en disant on va peut-être nous faire une pause, mais il faut surtout aller aider ceux qu'on a réellement besoin. Quand je vois 40% de la population en Afrique ou en Asie qui augmente en plus, vit dans des conditions sanitaires, d'hygiène qui sont énormes, comment on peut tolérer encore aujourd'hui que d'autres qui habitent à 5 heures d'avion de nous vivent en espérance de vie qui est de 20 ans inférieure à la nôtre? C'est pas possible. Et là, l'écologie et la théologie doivent se rencontrer. Parce que je pense qu'on doit être, j'allais dire, les nouveaux porte-parole ou prêcher la bonne parole, c'est ça la bonne parole. Je pense, c'est vraiment respecter l'homme profondément, parce que l'homme est... Il y a le génie humain, il y a plein de choses qui sont extraordinaires, et on doit aussi respecter la planète, et il faut que là, on se retrouve là-dessus. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu vraiment à votre question, mais...
Je suis un petit peu gênée, enfin, je comprends que vous dites là que bon, l'économie politique, tout ça... Ils ont fait un peu un rigueur sur la pensée écologique, tout ça, sur la nature, etc. Mais il y a des choses qui me gênent quand même un peu. Le discours, il y a quelqu'un que je respecte beaucoup, comme par exemple Jean-Marie Pelt ou Pierre Rabhi, des hommes comme ça, je pense qu'il y a des choses au niveau des... Comment il faut que je me mette là? D'accord. sont pas nécessairement pour des recherches par rapport aux OGM, c'est bon, pas etc., mais qui sont très proches en même temps de la nature et très proches aussi de l'humanité, etc. Comment vous les voyez, c'est des exemples, hein, peut-être, mais
ce sont de bons exemples, mais je pense qu'on peut pas séparer l'écologie comme Monsieur Rabhi et l'économie. Il faut qu'on produise malgré tout beaucoup plus. Pour répondre aux besoins alimentaires de la population. On a des gens qui meurent de faim. Donc c'est bien beau de faire aussi tout ce qui est... Quoi. Un autre contre-exemple. On dit qu'il faut manger du bio. Le bio, c'est le meilleur. C'est ce qu'on entend. Nous, au conseil régional, on mange des tomates bio ou des cerises bio qui viennent d'Argentine. Est-ce que c'est la logique écologique? Il y a un moment, alors là on va dans les dérives, mais je pense qu'il faut être raisonnable, il faut effectivement préserver la terre et il faut effectivement développer des circuits courts par exemple pour l'alimentation. Mais il ne faut pas oublier, et c'est ce que je disais, qu'il y a des gens de l'autre côté de la planète qui n'arrivent pas à manger, qui se partagent un bol de riz. Nous on est dans le luxe. Ça devient un luxe, notre écologie.
Je voudrais bien, moi je vais vous dire pourquoi.
Attendez.
ils n'arrivent pas à manger grâce à ces grands trusts style Monsanto. Hein, les gens achètent les terres, vous savez très bien que les Chinois achètent toutes les terres en Afrique, hein, et dépouillent les Africains de leurs propres terres et qu'ils ne peuvent plus utiliser. Ou alors les grands groupes pétroliers qui polluent tout, hein, les rivières, etc. Les gens ne peuvent plus produire, plus cultiver. En Amérique du Sud, c'est je ne sais plus quelle industrie qui pompe toute l'eau, hein, et les gens n'ont plus d'eau, les rivières sont détournées, les gens n'ont plus d'eau pour cultiver. Voilà, voilà pourquoi les gens meurent de faim.
Je pense qu'il y a des dérapages dans tous les sens, mais pour avoir fait une mission humanitaire en Afrique, on était bien loin de ces préoccupations-là. On était sur des terres qui étaient totalement sèches, où il n'y avait pas du tout d'eau, où les gens n'avaient rien à manger. Donc bien évidemment, il y a des groupes, j'allais dire, hyper capitalistes qui détruisent tout. Il faut qu'on les limite. Ça, il faut qu'on le réglemente. Bien évidemment. Ben, je ne suis pas sûre que ce soit la première des solutions, mais bien évidemment, ça, il faut qu'on réglemente, il faut qu'on respecte ça. Mais je pense qu'il y a d'autres choses aussi, et tout le monde ne meurt pas de faim à cause des gros groupes pétroliers à droite ou à gauche, ou des grosses entreprises. En Afrique, pour le peu que je connaisse, on était bien loin de ces préoccupations-là. Et tout ce qui était au niveau de la santé aussi, on était bien loin des préoccupations des grands groupes médicaux, malheureusement.
Moi, ma question elle est liée à ce qui vient d'être dit. Comment peut-on, en tant que tout petit citoyen, lutter contre les multinationales ou en tout cas se tenir vigilant et montrer qu'on est vigilant?
Je pense que c'est l'engagement de tous les jours, mais un engagement raisonné, sans extrême et sans tout casser, parce que je crois que ça marche pas, ça marche plus. C'est vraiment un engagement, et puis je pense qu'il faut y aller avec ses tripes et avec le respect et l'amour des autres. Et petit à petit, au quotidien, on fait changer, mais ça part de la base. C'est vraiment un travail quotidien, et toujours encore, quoi. J'insiste sur la notion de respect. Je vois tellement de dérapages politiques avec des gens qui donnent des leçons aux autres, mais qui ne s'appliquent absolument pas à eux-mêmes les grandes directives qu'ils veulent donner aux uns aux autres. Je crois que c'est nous, mais c'est le respect, c'est en discutant, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, aussi où on peut évoluer petit à petit les choses, faire évoluer petit à petit les choses. Après, effectivement, c'est très politique. Moi, j'ai du mal à comprendre, j'aurais pu parler du nucléaire, j'ai du mal à comprendre quel est le côté positif pour l'écologie quand, par exemple, l'Allemagne ferme sa centrale nucléaire mais ouvre des centrales à charbon. Quelle est la logique là-dedans? Donc, on veut dire... Je pense, c'est pour ça que je dis que c'est des positions dogmatiques où on dit qu'il faut supprimer le nucléaire tout de suite parce que c'est dangereux. Oui, c'est dangereux, mais je pense que le génie humain fait qu'on peut aussi s'attaquer aux solutions pour protéger, faire qu'il n'y ait pas de dérapage, pas d'accident. Mais le charbon, pour le moment, est beaucoup plus dangereux que le nucléaire, excusez-moi. Et en plus, ça coûte beaucoup plus cher. Donc voilà, est-ce qu'on va, pour par exemple les pays d'Afrique qui n'ont pas l'accès à l'énergie, qu'est-ce qu'on doit faire ? Leur ouvrir des centrales à charbon qui vont polluer en plus l'air, ou est-ce qu'il faut qu'on trouve d'autres solutions? En attendant, bien évidemment, de trouver des solutions beaucoup plus propres, comme l'éolien ou les panneaux photovoltaïques, mais pour le moment, malheureusement, on ne peut pas répondre à tout ça. Le nucléaire en France, c'est 75% de notre production d'énergie. On ne peut pas tout changer.
On a tout misé sur le nucléaire au lieu de miser sur des produits de développement durable. Voilà, c'est tout. C'est un acte politique.
Sauf que l'éolien, on sait que ça ne fonctionne pas.
Derrière l'État, l'argent et les grands groupes, comme d'habitude.
Sauf que l'éolien, on sait que pour le moment, ça ne fonctionne pas. Une éolienne, c'est 23% de rentabilité.
Oui, oui, oui.
Donc on sait que l'investissement coûte très 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 cher.
C'est aussi alimenté par de l'électricité, etc. Donc,
oui, bien sûr. Donc, les panneaux photovoltaïques, on a voulu essayer, mais mal.
La recherche n'est pas achevée.
Oh, les panneaux photovoltaïques, par exemple, on a voulu essayer, mais on a fait produire des panneaux photovoltaïques en Chine, qu'on a ramenés ici et qui ont été encore plus destructeurs pour l'environnement.
Il n'y a pas eu de recherche à ce niveau.
Parce qu'on n'a pas eu de recherche en France.
On a tout misé sur le nucléaire sans savoir où on allait. Parce que c'est faux de dire que le nucléaire c'est plus propre que le charbon. Parce que les déchets ils vont durer des centaines et des millions d'années.
Alors si on continue la recherche, normalement en 2050 maximum, on est capable de réutiliser les déchets nucléaires pour alimenter nos futures centrales nucléaires. Mais quoi qu'il en soit, la recherche doit être dans tous les sens. On ne peut pas avoir une recherche que d'un côté ou d'un autre. La recherche doit continuer dans tous les sens.
Et le nucléaire, pour faire de la publicité pour l'électricité, consommer plus, consommer plus, consommer plus.
On ne va pas se focaliser que sur le nucléaire.
Que sur le nucléaire. Voilà. Il y a plein d'autres choses, mais je pense que la recherche, comme tous les domaines, est indispensable. On essaie de consommer moins, on essaie d'isoler les habitations afin qu'il y ait moins de chauffage, moins de choses comme ça. On essaie d'éduquer les gens, mais c'est aussi de la prévention et l'éducation de tous les jours et qui part de nos enfants.
On a commencé dans l'autre sens. Hein. Il y a fait voir une campagne à la télévision.
André.
Bien, merci beaucoup pour cet exposé qui mérite beaucoup de réflexion et je trouve très complet. Si on revient aux racines... Tu as parlé du jardin d'Éden, je crois que c'est intéressant. Parce que Dieu a confié la terre à l'homme et il en a fait au départ. Il a demandé à l'homme de garder ce jardin, de le faire fructifier. Et je pense que je suis tout à fait d'accord que l'économie, la théologie, la politique sont étroitement liées parce que souvent on dit le politique, c'est la politique, bon, on met un peu de côté, c'est de la politique. Mais en fait, nos gestes économiques dépendent d'une politique, ou engendrent une politique. Donc c'est étroitement lié. Quand on parlait de la faim tout à l'heure, je crois que j'ai lu dans un document ou entendu à la radio que 7 personnes sur 10 sur la planète se posent la question de savoir ce qu'ils vont manger au repas suivant.
Bien sûr.
Donc nous sommes effectivement dans un luxe qui est... Oui, je crois qu'on devrait avoir un peu honte par rapport à d'autres quand on voit ce qu'on met dans les poubelles. Je ne dis pas, voilà. Bon. Maintenant, j'ai une question par rapport au GIEC. J'ai entendu que le GIEC était le GIEC est donc un organisme officiel mondial ou européen, je ne sais pas.
International créé par l'ONU.
Voilà.
Alors, je vais dire exactement, en 1988...
Je vais dire ce que j'ai entendu, c'est que le GIEC est un organisme qui est absolument politique et qui ne tient absolument pas compte des recherches scientifiques.
Alors, au départ, le GIEC... Alors, je vais te dire, parce que j'ai bien mis exactement... la création du GIEC, la date, je crois que c'est 1988. Au départ, il y avait des scientifiques au GIEC. Mais au départ, c'était vraiment des experts de tous les gouvernements qui devaient être là et qui devaient analyser les données scientifiques. Malheureusement, le GIEC en ce moment, est un peu décrié, beaucoup de personnes politiques, beaucoup de scientifiques disent que le GIEC ne prend que ce qu'il arrange pour faire de la politique. Et le GIEC est mis un petit peu de côté parce que comme dans tous les domaines, je vous disais, malheureusement, les choses se politisent. Et on prend que ce qui nous arrange pour faire certains discours un peu dogmatiques, et je pèse mes mots, et on oublie la recherche scientifique et les vraies données scientifiques. Et c'est un peu ce qui se passe au niveau du GIEC, parce qu'il y a aussi des lobbying énormes au niveau de l'Europe, et même au niveau, nous, de la région. Lorsqu'on veut s'opposer à certaines décisions, on a des lobbying qui sont très très importants, qui viennent nous voir en disant si vous votez contre nous, vous allez voir ce que vous allez voir. Vous passerez plus aux prochaines élections, on va vous embêter, on va couper le fonds à tel organisme, etc., etc. Donc il y a des lobbying aussi importants, effectivement, de grandes multinationales. Mais comme il y a pour les lobbying de tabac sur la santé au niveau européen, et tout ça qui existe et qui est une dérive, je vous parlais des dérives de l'homme, ça fait partie des dérives de l'homme. Mais le GIEC, bien évidemment, en ce moment, est un peu mal vu.
Ah, merci pour votre exposé, parce que j'ai suivi attentivement quand vous avez dit où va le monde. Alors ma question elle est simple, parce que vous avez dit que l'écologie et la théologie doivent se rencontrer, c'est ça je crois.
Je pense que c'est indispensable.
Voilà, et puis ma question, comme on sait qu'en politique il y a toujours les groupes d'intérêt, même en sciences politiques il y a les partis politiques et les groupes d'intérêt, c'est-à-dire ces gens-là qui font la politique, ma question est la suivante, est-ce que la politique et la religion peut faire bon ménage? C'est ça ma question. Vous qui êtes là, vous pouvez pas faire la part de question.
Oui, j'espère. J'espère que ça devrait faire bon ménage. Malheureusement, je trouve qu'on est dans une dérive. On a tout pour être heureux. On est dans une dérive où on est égoïste, on ne peut plus se respecter, on ne peut plus communiquer, on ne sait plus rien faire avec le sourire et juste un geste gratuit. C'est plus possible, mais que ce soit en politique ou que ce soit ailleurs. On voit combien de nos voisins qui ferment la porte parce qu'il y a une mémé dans la rue qui a besoin d'un coup de main, et surtout, on ne va pas perdre de temps à l'aider. Je pense qu'on oublie les vrais fondamentaux. Mais je vous disais, aime ton prochain comme toi-même et tu ne tueras pas, tu ne voleras point. Que ce soit en politique ou ailleurs, je pense qu'il y a vraiment une dérive de l'homme qui n'est pas bonne, qui n'est pas belle, et qu'il faut que ce soit en théologie, en politique, en écologie, et partout qu'on se rappelle les vrais fondamentaux, qu'on arrête cette société égoïste où en plus les gens, je trouve, sont beaucoup plus aigris et malheureux qu'avant, et beaucoup plus renfermés. Donc en politique, oui, on devrait montrer l'exemple. Mais il faut qu'on y arrive, il faut qu'on y arrive. Mais tous les jours, c'est des petits gestes quotidiens, tous les jours. Essayons d'être un peu plus sympa, un peu plus respectueux, un peu plus correct, un peu moins égoïste, en politique comme ailleurs, bien évidemment. Après, normalement, quand on s'engage en politique, mais comme quand on s'engage dans une association ou autre chose, on n'y va pas par intérêt personnel. Normalement, l'objectif, et ce qui est certainement oublié depuis, c'est qu'on y va parce qu'on a envie d'aider les autres, on porte des projets, des valeurs, on croit en quelque chose. Mais c'est pas pour nous. Si c'est pour nous, dans ces cas-là, il faut qu'on arrête tout de suite. C'est pour les autres aussi qu'on le fait. Malheureusement. Mais je pense que c'est l'homme qui est comme ça. Oui, oui, les femmes aussi. Mais je pense que notre société est assez, quoi, est particulièrement égoïste. J'ai été très, très marquée par la catastrophe de Fukushima et très marquée lorsque je voyais les Japonais hyper solidaire, qui partageait un bol de riz entre 20 personnes, une maman qui avait des enfants qui partageait avec la mamie d'à côté. Et souvent, je me suis dit, mais chez nous, dans notre société de hyper consommation, hyper divisée, où on voit un sectarisme partout, au quotidien, j'allais dire, comment on réagirait? Et bien, à Annecy, par exemple, je ne suis pas sûre qu'on partagerait le bol de riz avec le voisin. Je pense qu'on s'enfermerait à double clé, à double tour, et qu'on mangerait notre bol tranquillement. Et malheureusement, je pense, mais j'ai un peu peur de ça. J'ai un peu peur de ça.
Qu'on oublie les fondamentaux. À propos de cette dernière allusion, quand il y a eu les inondations sur Quimperlé et tout, on a beaucoup parlé de l'entraide qu'il y avait eu entre les gens. Donc je pense que ça existe quand même.
Mais j'espère que ça existe. Mais je ne sais pas, une catastrophe grosse comme celle de Fukushima, si on y arriverait. Mais j'espère, j'espère profondément.
Mais voilà, moi je vais vous remercier d'avoir bien fait la distinction entre écologue et écologiste. Bon, je suis une ancienne chercheure au CNRS en biologie. J'ai travaillé une grande partie de ma vie sur les pesticides. Et justement pour montrer les dangers de ces pesticides sur les vignées germinales des oiseaux. Et je dois dire que j'ai eu une peine énorme à publier parce que mes résultats étaient négatifs souvent. Et publier en Amérique, publier au Japon, publier n'importe où, les industriels se passaient le mot et les notes étaient refusées pour raison d'expériences supplémentaires, que la statistique n'était pas suffisante, enfin toutes ces raisons. Voilà. Et je voulais dire que ce qui est essentiel dans la défense de notre planète, c'est de défendre au maximum la recherche scientifique. Voilà.
C'est ce que j'ai essayé de dire vraiment, en disant qu'il fallait qu'on continue. On ne peut pas se passer de recherche. On ne peut pas continuer d'essayer d'avancer. C'est pas possible.
Je voulais juste de mon côté revenir sur... alors ça, c'était un petit peu en marge de votre exposé, mais quand vous avez parlé de... des effets néfastes un petit peu des religions au cours des siècles. La plupart du temps, et c'est vrai encore aujourd'hui, c'est pas à cause de Dieu, c'est à cause de l'envie de pouvoir.
Bien sûr.
Voilà. Donc encore une fois, on revient en fait
comme
à
les écologistes extrémistes, voilà. Comme les politiques qui dérapent. C'est on est bien loin justement de Dieu. Et
c'est ça. Voilà, parce qu'effectivement, vous l'avez dit, hein, le commandement d'amour dans toutes les religions, c'est le même.
Oui.
Et quand on tue ou qu'on attaque au nom de Dieu, ça c'est pas possible, ça n'existe pas. On tue et on attaque parce qu'on veut avoir le pouvoir.
Bien sûr.
Et puis alors, juste revenir sur ce Dieu qui place l'homme dans le jardin d'Éden pour le cultiver, il a aussi créé l'homme libre. Voilà. Donc là, ça rejoint aussi ça. Là, c'est pas à cause de Dieu ou au nom de Dieu, c'est bien un choix humain.
Oui, je suis d'accord.
Voilà. Donc là, c'est important aussi. L'homme est libre sur terre.
Oui. Je suis d'accord. Il devrait se rappeler des vrais commandements ou des vraies valeurs.
Je n'avais pas osé prendre la parole, mais j'avais réagi aussi à l'idée qu'on mélange un peu religion et théologie. Alors la théologie, ça parle de Dieu et de l'homme, Les religions sont vite dans le pouvoir et... Mais t'as parlé de la Saint-Barthélemy, alors on te pardonnera.
Je voudrais juste rajouter que l'homme ne se donne pas assez les moyens au sens propre et figuré pour faire avancer les choses.
Parler d'un endroit dans le Sahel, je crois, où une start-up a mis en place des piles voltaïques de manière à rentrer le soleil aux habitants du pays sous forme d'électricité. Je trouvais ça savoureux parce qu'au fond, on ne prend rien, ils ont le soleil, on leur donne de l'électricité. Je trouve ça merveilleux.
Bien sûr, oui, j'en ai entendu parler. Ça, c'est une vraie bonne solution.
Oui.
Ça, c'est une vraie bonne solution chez eux, bien sûr. Il faut leur apprendre, en plus chez eux, à pouvoir être heureux, exploiter leurs terres, exploiter leurs ressources, bien évidemment. Et c'est une très, très bonne solution.
Moi, j'étais content. J'ai trouvé que c'était merveilleux, ça.
Oui, je suis d'accord.
Question. Oui, ce titre... Quand écologie et théologie se rencontrent, paraissait étonnant. Et en fait, quand on relit la Bible avec cette arrière-pensée, on s'aperçoit que c'est en filigrane. On en parlait ce matin avec quelques-uns. Et je vais vous faire grâce de ça, mais j'ai trouvé des tonnes et des tonnes de citations, et certaines extrêmement précises, en particulier la création de la septième année, l'année sabbatique. Dieu précise vraiment qu'il faut que la terre se repose. Et qu'elle profite aussi aux autres, que les animaux sauvages pourront se nourrir, que après que les pauvres se soient servis. Enfin, on retrouve d'une manière, toujours comme toujours dans la Bible, d'une manière très condensée, ce que Annabelle a essayé de nous dire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier l'homme, certes, hein, c'est une dérive actuelle, mais enfin, l'homme n'est pas tout, il est dans la nature et il doit vivre dans la nature. On n'est pas du monde, nous disent les évangiles, mais on est quand même dans le monde. D'autres questions?
Une question à caractère religieux. J'allais dire que, parce que souvent on lit dans la Bible où on suit les enseignements, on dit qu'actuellement le monde est dominé par la force du diable, la force du mal. Ça veut dire que je ne sais pas si nous humains on sera capable d'essayer d'éloigner cette force, parce que on voit que tout va mal, les divorces, les maladies, les conflits sociaux, l'égoïsme et tout ça. C'est, je crois que ça doit être l'œuvre du diable, me semble-t-il, je ne sais pas.
Écoutez, je ne sais pas, je ne pourrais pas répondre à cette question.
Alors, écoutez, je vais vous dire, j'ai invité il y a quelques années deux vieux pasteurs et leur femme, heureusement, à la maison. L'un était un ancien pasteur réformé à la retraite, et l'autre était un pasteur adventiste, tous les deux très chers à mon cœur. Mais malheureusement, au cours du repas, la question est venue sur le diable. Et là, les choses se sont gâtées. Car un pasteur disait, le diable, c'est celui qui vient parmi nous, qui nous donne de mauvaises idées, de mauvaises actions, il faut lutter contre lui, il est omniprésent, etc. Et l'autre pasteur disait, donc c'est le diable. C'est nous, hein. C'est notre part d'ombre, c'est trop facile d'accuser quelqu'un. Voilà. Alors effectivement, on peut mettre le nom là-dessus. Moi j'ai beaucoup de mal à imaginer que le diable... Mais c'est l'homme, il ne faut pas chercher, l'homme a une part d'ombre terrible. Même nous, autant qu'on est, enfin il y a peut-être quelques-uns ici qui y échappent, mais moi pas. Et donc, oui, Robert sûrement. Mais je demanderai un Solange quand même. Non, l'homme a en lui une part d'ombre, vous savez bien. Un pasteur expliquait que quand Dieu créa l'homme, il prit de la terre, de la tourbe, et puis il modela une forme et il mit son esprit, souffla son esprit saint dedans. Or, on est partagé. on a une partie de nous qui nous attire vers le ciel, c'est l'esprit, et puis on a les pieds très lourds attachés à la terre. Et vous savez que la terre dont on a été tiré, c'était le tohu-bohu. Et bien voilà, il y a chez nous du tohu-bohu, et donc c'est peut-être pas la peine d'aller chercher. Mais c'était pour répondre à votre question. Voilà.
Tu veux une question ? Oui, finalement, j'ai une question. Vous nous avez bien expliqué la différence entre les écologues et les écologistes. Et en même temps, moi je retiens de votre propos quelque chose d'un peu pessimiste. C'est-à-dire que si aujourd'hui on veut être défenseur d'une manière ou d'une autre de l'écologie, il faut déjà batailler pour calmer les écologistes. Et est-ce que c'est possible ?
Oui, c'est possible. Mais je pense qu'il faut redonner la parole aux scientifiques. Réellement, il faut qu'on redonne la parole aux vrais, écologistes de base, qui étaient les scientifiques et les chercheurs. Je vais vous donner... Et que les scientifiques travaillent ensemble, mais qui puissent prendre la parole, reprendre la parole. Je vais vous donner un exemple, nous, du hold-up politique écologique. Au conseil régional, une des compétences de la région sont les transports express régionaux, les trains. Le groupe écologique vote à chaque fois contre le développement du train. Pourquoi ? Parce qu'on prend sur des terres agricoles ou parce que, voilà, ils ont des idées. Mais si on ne développe pas le train demain, comment on va faire pour polluer moins avec les transports ? Il y a un moment, il faut quand même prendre du recul, se poser, parce que comme je vous le disais, on est plus nombreux, on bouge, on consomme, on a envie de liberté aussi, on est curieux, et on ne peut pas tout figer. Donc il faut quand même que la science ou que les technologies suivent ce développement humain. Si on refuse tout ce développement humain ou toutes ces recherches, je vous parlais des OGM, lorsqu'il y a de la recherche médicale avec les OGM, est-ce qu'on doit tout détruire ou est-ce qu'on doit canaliser, surveiller ? On ne peut pas, la preuve par la preuve diabolique, on ne peut plus avoir cette démarche-là. Il faut qu'on réfléchisse. Les faucheurs volontaires anti-OGM ont fait partir tous les chercheurs qu'on avait en France et qui étaient brillants aux États-Unis, où ils déposent des brevets à tour de bras. On est le seul pays au monde à refuser la recherche sur les gaz de schiste. Est-ce que c'est normal chez nous, alors qu'on a des chercheurs brillants, qu'on refuse ça ? Nos chercheurs s'en vont, mais c'est la même chose au niveau médical. Je vous parlais de la bio, des nanotechnologies au niveau médical. Je cite souvent, alors j'ai plusieurs fois parlé avec André, au conseil, à Grenoble, on a un chercheur qui s'appelle le professeur Benavide, qui fait de la recherche sur les cerveaux, qui crée des petites puces pour la recherche si on a eu un AVC ou si on a un cancer cérébral. Ce monsieur est venu nous voir pour demander une subvention pour faire des salles blanches. Il embauche du monde. En plus, au niveau économique, il embauche du monde. Au niveau de la notoriété de la France, il fait des conférences de par le monde, partout. Donc c'est aussi notre image, c'est Rhône-Alpes. Et bien, les écologistes de la région ont voté contre, parce que pour le moment, il fait des recherches sur des lapins. Mais malheureusement, on est obligé d'avancer, c'est ça. Et je pense que on parlait du nucléaire, on est obligé de continuer les recherches, mais on ne peut pas tout arrêter du jour au lendemain. Et le nucléaire, on n'aime peut-être pas, mais on est quand même obligé de continuer à avancer, parce que si demain, on arrive à utiliser les déchets du nucléaire pour avoir une énergie propre, qu'on peut mettre partout dans le monde, qui est pas chère, qui est indépendante, qui est non fluctuante, mais c'est fantastique pour aussi les autres populations, pas que pour nous. Il faut qu'on puisse chercher pour après exporter, et j'allais dire essayer de faire le bien aussi ailleurs. On ne peut pas tolérer autant de disparités, et on est obligé de continuer à avancer.
C'est pour ça qu'il faut se remettre en question et prendre conscience de ça.
Bien sûr. Mais malheureusement, je fais bien la différence entre écologue et écologiste parce que je vois ces dérives-là au niveau du conseil régional et des élus qui prennent la parole. Et je pense que lorsque les gens vont voter pour le parti écologiste, où il y a bon nombre quand même de gens qui sont assez, j'allais dire, sectaires, je suis navrée, ils font l'amalgame entre protection de la nature. Comme moi, j'adore aller me balader en montagne, je veux que mon lac soit propre, je trouve ça extraordinaire. Mais ça, c'est pas de la politique, c'est du bon sens. Et nous tous, qu'on soit écologistes, qu'on soit de droite, de gauche, croyants, athées, musulmans, n'importe, ça c'est du bon sens. On doit protéger notre terre. Donc c'est même plus de la politique.
Eh bien, merci Annabelle. Merci à vous tous. Alors, la semaine a commencé donc hier avec le culte d'ouverture. Un petit peu de silence, s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous démarrons les études bibliques brillamment. Encore merci à Noël. Et donc, demain, nous avons le rabbin François Garay qui vient de Genève et qui lui va parler de la Bible et de la théologie, mais il va se fier à un passage du Talmud. Si tu t'apprêtes à planter un arbre et qu'on t'informe que le Messie arrive, plante d'abord ton arbre et ensuite va accueillir le Messie. Ensuite, c'est le père Raymond Barcellini qui est bien malade et qui a été, qu'il est un peu fragile malgré son jeune âge. Je crois qu'il a 85 ans, 86 ans cette année. Il m'a téléphoné tout à l'heure pour s'excuser de ne pas être là aujourd'hui. C'est vraiment très gentil de sa part. Mais il fait tout son possible et normalement il devrait être avec nous mercredi pour nous dire une création inachevée pour que l'homme s'achève. Jeudi, c'est le pasteur Étienne Likowski, qui est un pasteur de l'église évangélique de Baptiste de Chambéry, qui nous parlera de l'avenir vers l'éternité, quel renouvellement pour notre terre, en se fiant à Romains chapitre 8, les versets 20 à 22. Vendredi, nous allons finir, je n'ose pas dire en beauté, mais quand même, avec notre pasteur Charlotte Gérard, qui, sous le titre « Dieu, la Terre et moi, dialogue biblique, théologique et écologique », en partant du premier chapitre de la Genèse. Il y aura jeudi soir une conférence tout sur le même titre, « Où va le monde quand écologie et théologie se rencontrent ?» par le pasteur Jean-Pierre Steinberger, qui est le bibliste de l'Église protestante unie de la région Rhône-Alpes, Centre-Alpes-Rhône. Et puis le pasteur Magali Girard, qui est pasteur de l'Église protestante unie à Chambéry, qui sont tous les deux très sensibilisés et spécialistes des problèmes d'écologie. Nous aurons vendredi, samedi après-midi à 17h30 les conteuses du diocèse, qui viendront faire une séance elles ont spécialement préparé des contes bibliques à base écologique. Donc on leur est très, très reconnaissant de ça. Dimanche, il y aura le culte de clôture avec le pasteur Bernard Hortorf, qui est un ancien professeur de la faculté de théologie à Genève, qui a écrit des articles très importants sur justement écologie et théologie. Nous avons exposé le tableau de Jean-Yves Gonzalez comme chaque année, mais je veux dire que cette année, j'ai du mal et il faudra que si quelqu'un connaît la signification, c'est toujours un peu symbolique, mais là, écologie et théologie, j'ai pas eu le temps encore de me pencher, je pense que je ferai un petit tour là-dessus. Vous avez dans le hall les photos du concours photographique sur ce sujet, Où va le monde. Et donc la remise du prix a eu lieu hier et vous pourrez tout à loisir regarder les photos. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à demain. Attends,